Chers amis, cette 12e étude sera en deux parties parce qu'elle est un peu plus longue. Également, elle vous sera d'une grande utilité. Alors, nous avons aujourd'hui la première partie de cette étude. Et le titre sera « La montagne de la séparation ». Si vous voulez, la croix au croisement. La montagne de la séparation, la croix au croisement. Regardez-la, Dieu est au poteau indicateur se tenant au chemin que chaque homme doit emprunter de son propre gré, et en montant par la colline abrupte ou en descendant par les chemins sinueux, par l'un ou par l'autre de ces chemins, chaque homme doit tôt ou tard y passer. Dieu ne force aucun homme. Chacun doit choisir son chemin. Et c'est de son choix, de son propre choix, le libre choix, que dépendra le bout du chemin. On est allé devant pour montrer le chemin parfait. Celui qui suit ne craint pas où il sera, donc vraiment gagnant, victorieux, si celui qui ne craint pas pour aller au bout du chemin. Essayons donc d'aller ensemble au bout du chemin. La Bible dit dans Saint Luc chapitre 23, verset 33, « Et quand ils arrivèrent à l'endroit nommé le Calvaire, là, ils le crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, un à sa droite et un à sa gauche. » Les montagnes, ils ont souvent servi de ligne pour séparer un pays d'un autre. Par exemple, les Pyrénées séparent la France de l'Europe. Les Alpes séparent la Suisse du reste de l'Europe. Les Himalayas constituent la frontière du nord de l'Inde. Ainsi en est-il dans l'histoire de l'homme. Le calvaire forme la ligne de séparation entre les prophéties du passé et les réalités du présent. C'était sur cette sombre et laide colline que les promesses du passé devenaient l'assurance du présent et amenaient l'espoir pour le futur. Et c'était sur cette montagne de la mort que les fleurs de vie s'épanouissaient. Là, l'issue finale de la guerre sainte entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, était décidée. Et dans ce lieu invraisemblable, au milieu du drame de la mort, l'arbre de vie était planté. Ses racines descendirent jusqu'au fleuve de Dieu et ses feuilles curatives commençaient à se déployer jusqu'à couvrir toute la terre, incluant ainsi toutes les générations à venir. Et c'était sur le calvaire que le dos lacéré du Fils de Dieu était levé au-dessus de toutes les misères du monde. Et c'était à partir de cette croix taillée à coups de serpe sur le calvaire, cette montagne de torture violente, que l'agneau de Dieu, le lion de Judée, l'étoile brillante du matin, la fleur de lys, le rocher des âges et le sauveur des hommes sortaient des ombres de la prophétie pour aller vers la lumière de l'accomplissement. Oui, c'était au calvaire, à la montagne de la séparation, que les hommes devant Christ, attendaient avec espérance. Et aujourd'hui, c'est vers le calvaire que nous regardons le passé avec assurance. Là, le paiement final de la rédemption était versé par le sang et la souffrance. Là, le lien final de la chaîne divine de communication entre Dieu et l'homme était oublié au milieu de cette atmosphère embrassée. Et elle était là, alimentée par les flammes du parfait amour de Dieu et l'horrible haine de l'enfer. Chers amis, c'était sur le calvaire que le dernier désir et testament de Jésus-Christ, signé dans le sang de l'agneau sacrifié, était exécuté. À cette heure décisive, les prodiges devenaient grands, les perdus étaient trouvés, et les entraves aux liens spirituels étaient annulées par cette croix vieille et rugueuse qui devenait une épée dans la main de Dieu. C'était donc à partir du calvaire que le voile dans le temple qui couvrait l'entrée du Sinaï des saints était déchiré en deux. Et pour la première fois, les hommes pouvaient venir audacieusement et personnellement devant le trône de Dieu à travers leur divin médiateur. Donc, le calvaire, la montagne de la séparation, était un endroit de finalité, car là, le salut était définitivement et éternellement fixé. Rien sur terre, en enfer ou même au ciel ne peut garder les bénéfices de la rédemption hors de la portée de ceux qui la recherchent. Et c'est là les lois exercées pour la guérison du monde, là étaient dévoilées aux hommes, aux anges et aux démons, tout afin qu'ils puissent les voir. C'était donc sur la montagne de la séparation que Satan devenait finalement et pour toujours un ennemi vaincu. C'était là les ombres qui avaient obscurci les gloires du ciel étaient éternellement chassées par les rayons brillants du soleil de la vertu qui s'était levé avec la guérison entre ses ailes. La montagne de la séparation était donc le lieu du choix. Jésus-Christ allait au calvaire, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il l'avait choisi. Là, il acquérait notre salut par le sacrifice de l'amour divin, et non par mandat divin, ce qui n'est pas la même chose. C'était donc également l'heure du choix pour les hommes. Mais dans ce grand moment d'opportunité, ils restaient aveuglés, aveuglés par les nuages sombres de la haine surgissant du piège. Ils criaient leur soumission à leur pire ennemi, César, plutôt qu'à leur cher ami Jésus-Christ. Ils criaient « Nous n'avons qu'un roi, César ». Pendant des siècles, ils avaient attendu le Messie et maintenant qu'il était là, ils le crucifiaient. Oui, des centaines d'années auparavant, le prophète Ésaïe avait écrit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ce jour-là, sur le chemin de la peine qui l'amenait sur la montagne de la séparation, la prophétie était accomplie. Il devenait clair que la domination de Jésus-Christ était symbolisée par la croix qu'il portait sur son épaule. Le calvaire était la montagne de la séparation. Oui, c'était la montagne qui partagèrent ceux qui l'acceptèrent et ceux qui le rejetèrent. Pour ceux qui avaient choisi de le suivre, le futur compterait peu de salles en marbre et de palaces dorés. Eh bien oui, il serait plutôt une question d'honorer la croix de l'amour, la croix du sacrifice, la croix du service et de suivre le chemin qu'il avait tracé pour eux. Le fleuve pourpre de la rédemption, il commence à couler de la crèche et il réunit la puissance et l'élan à travers les sept blessures du Sauveur qui avait subi la circoncision, l'agonie dans le jardin, la flagellation dans la salle du jugement de Pilate, la couronne d'épines, les meurtrissures sur le chemin de la croix et la crucifixion, ainsi que finalement la flèche dans le côté qui lui transperçait le cœur. Cette blessure finale, on peut bien le dire, déchaînait un flux de rédemption tel que tous les barrages que le monde incroyant et les forces de l'enfer pouvaient ériger contre lui, ils étaient maintenant rompus. Et de cette soudaine réalisation jaillissait sur le monde un torrent toujours croissant de grâce salvatrice. Il n'existe sur terre aucun endroit ne pouvant être atteint par le fleuve de la rédemption. Même dans le pays le plus aride au monde, où aucune goutte d'eau ne peut être trouvée, le fleuve du calvaire s'écoule librement. Il suit donc son chemin en serpentant dans les cœurs et les maisons des hommes, amenant la vie éternelle à tous ceux qui se baigneront dans son flux vivifiant. Pour l'âme étouffée, suffoquant sous la poussière de l'incroyance, le fleuve provenant du calvaire transformera le désert en une oasis de bonheur et de joie. Pour cette âme recouverte des croûtes et des cicatrices du péché, le fleuve de rédemption fournira l'élément de purification et la puissance afin de restaurer la sainte pureté. Et ce torrent débordant enfuira pour toujours dans ses profondeurs illimitées le souvenir des méfaits passés. Oui, Christ est un courant qui transforme. Ce merveilleux courant détient le pouvoir miraculeux de transformer les cœurs noirs en cœurs blancs et purs. Une fois que l'ivrogne a goûté au fleuve provenant du calvaire, il perdra pour toujours l'envie des boissons de ce monde. Ses liens seront déliés et il sera libre. Le fleuve du calvaire s'écoule à travers les vastes prairies de la vie et les fait fleurir comme les jardins de Dieu. Le cri urgent du Seigneur va vers le monde entier. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez et achetez et mangez. Ésaïe chapitre 55 verset 1. Afin d'accomplir la prophétie en tant que bouc émissaire pour payer le prix des péchés du monde, Jésus-Christ se dirigeait vers la montagne de la séparation pour y mourir, afin que vous et moi puissions entrer dans la ville de Dieu et vivre. Dans l'image de cette scène, le Fils de Dieu allant à la croix pour mes péchés, mon âme s'incline, et comment, dans une profonde gratitude, reconnaissant l'ampleur de ce qu'il accomplissait pour moi, je prends joyeusement ma petite croix et la porte fièrement en tant qu'insigne de service pour lui. Satan était résolu à ce que la croix devienne le symbole de la défaite de Dieu et la honte de Christ. Mais, attention, le triomphe de l'amour divin en a été un trône, en a fait un trône, devant lequel des millions d'hommes s'inclinent avec un amour et une loyauté immortelles. La cruelle couronne d'épines devenait le diadème de la dévotion divine et les clous, les fixations sur lesquelles les vérités de la rédemption étaient suspendues afin que le monde entier puisse voir. Jésus a prêché devant de nombreux oratoires durant les courtes années de son ministère terrestre. Mais sur le calvaire, sur la montagne de la séparation, il prêchait son dernier et grand serment. Il pouvait clairement voir le monde qu'il avait à sauver. Regardant à travers l'étendue du temps, il pouvait voir les grands besoins de la multitude qui viendrait dans le futur. Pendant son agonie, il entendait l'ombre de sa vertu afin qu'elle les recouvre tous. En même temps que son dernier soupir, son cœur rempli d'amour activait un flot du fleuve de la rédemption suffisant pour y inclure le dernier homme jamais né sur cette terre. Et tant que médiateur, c'est-à-dire en tant que médiateur, chers amis, il a plaidé pour les pécheurs. Et en tant que guérisseur, il a exhibé ses blessures afin de rappeler au monde qu'il avait payé pour leur guérison. En tant que grand architecte, il se déposait lui-même comme la pierre angulaire sur laquelle l'Église serait bâtie. En tant que bon berger, sa voix résonne partout à travers le monde et à travers les âges, appelant l'agneau égaré et lui demandant de revenir à la bergerie. Et en tant que puissant conquérant, son cri poignant, car il criait « C'est fini !» Cela a fait écho et cela a encore été un écho à travers le monde comme un témoignage triomphant de son éternelle victoire. Pour Jésus-Christ, pour vous ainsi que pour moi, la montagne de la séparation était la scène d'une victoire glorieuse. Là, il conquérait la chair par son consentement à aller à la croix. Il conquérait le péché en le clouant pour toujours à sa croix. Il conquérait Satan en transformant la croix en trône. Oui, chers amis, dans votre voyage à travers la vie, vous arriverez tôt ou tard au calvaire, à la montagne de la séparation. Et là, il vous faudra prendre une décision. Accepterez-vous Jésus-Christ, sa vie, sa mort, son sacrifice, son triomphe final et tout ce que cela signifie pour vous? Ou bien le rejeterez-vous ainsi que tout ce qu'il a accompli pour votre salut en décidant d'être perdu pour toujours? Chers amis, il existe réellement deux catégories de personnes dans ce monde. Et elles sont dramatiquement représentées par les deux voleurs qui était crucifié avec Jésus. L'un des deux n'ayant absolument pas eu conscience de l'importance de ce qu'il se produisait et ne pensait qu'à une seule chose, à sa douleur, et il demandait qu'on le descende. Mais le second, ayant saisi une parcelle de l'illumination de ce moment décisif, il a demandé à être monté et non pas descendu. Par cette prière finale, le voleur pénitent a atteint le ciel. Ses péchés étaient lavés dans le sang versé du Sauveur. Il accompagnait le roi des rois jusqu'au paradis. Et pendant que les disciples égarés et troublés doutaient, un voleur croyait. Confessant sa foi dans un abandon total, il devenait le tout premier à faire l'éternel choix à la montagne de la séparation. Quel chemin prendrez-vous, mon très cher ami? Quel chemin vas-tu prendre? Alors que vous considérez avec moi les prodiges de la montagne de la séparation, vous êtes arrivé face à face avec les éternelles issues démontrées par la croix de Christ sur le calvaire. Aujourd'hui, vous devez prendre une décision. Vous ne pouvez ignorer la finalité plus longtemps. Vous êtes maintenant même, oui maintenant, sur le sommet du calvaire, au pied de la croix. Vous devez accepter ou rejeter Jésus-Christ. Quand vous redescendrez de la montagne de la séparation, irez-vous du côté sombre qui conduit à la mort et à la destruction, ou alors du côté lumineux, celui qui mène à la vie éternelle? Quel chemin prendrez-vous à partir du calvaire, à partir de la montagne de la séparation? Chers amis, deux voies distinctes peuvent actuellement être entendues dans le monde, c'est-à-dire la voix de Dieu ou la voix de Satan. Deux attitudes peuvent être observées chez les êtres qui habituellement entendent des voix. Ou ils écoutent et y prêtent attention, ou bien alors ils attribuent ces voix à quelque cause naturelle. Ce fait est vérifié dans l'évangile de Saint Jean qui raconte une scène typique. Écoutez bien ceci. Père, glorifie ton saint nom. Et une voix venant du ciel a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait pourtant entendu disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres par contre disaient, c'est un ange qui a parlé. Un ange lui a parlé. Saint Jean, chapitre 12, versets 28 et 29. Prenons un moment, 5 minutes, afin de considérer ces deux voix et ces deux attitudes. Tout d'abord, je souhaite insister sur le fait que Dieu parle à son peuple actuellement comme il l'a toujours fait. Lorsqu'il nous parle, il nous faut reconnaître sa voix et suivre ses commandements. Trop souvent, quand le Seigneur a parlé, les êtres à qui il s'adressait n'ont pas reconnu sa voix, et on dit comme dans notre texte, il tonnait. C'était simplement le tonnerre. Si nous voulons satisfaire le Seigneur, il y a un chemin que nous devons suivre, une existence que nous devons vivre et un travail que nous devons exécuter. Et il nous est impossible d'accomplir aucune de ces choses sans l'aide de Dieu. Nous devons être en contact avec lui afin de savoir ce qu'il veut que nous fassions, car si nous ne pouvons reconnaître sa voix, comment connaître son désir? Or, il y a des preuves infaillibles. Nous avons cité des moyens infaillibles par lesquels il est aisé de connaître la différence entre la voix de Dieu et celle de Satan. Lorsque une voix entendue sépare et divise le peuple de Dieu, ce ne peut pas être la voix de Dieu. Lorsque celle-ci minimise, qu'elle minimise le pouvoir de Dieu et accroît celui de l'homme, il ne peut non plus s'agir de la voix de Dieu. Toute voix qui détruit la foi encourage le doute et justifie l'incroyance. Cela vient uniquement de Satan et jamais de Dieu. L'apôtre Jean nous avertit. Il dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, faux gourous, oh, ils ne sont pas tellement faux, c'est vraiment des gourous qui imitent. Ils sont venus dans le monde et ils y sont maintenant. » Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 1. Donc, la voix de Satan encouragea, elle encourage le péché dès le début, alors qu'elle prononçait les mots qui plantaient la première graine de doute dans le monde. Ah oui, Dieu a dit? A-t-il vraiment dit? La voix de Satan a provoqué les guerres, les maladies, et elle a amené la mort sur la terre. Elle a détruit la paix des hommes et des nations. Elle a leurré des multitudes en les amenant dans les chemins de la destruction. La voix de Satan, chantant sa chanson de sirène, a encouragé la persécution des justes. Elle a divisé les églises et elle a détruit la force de leur unité. Cette voix vicieuse a semé les graines de la haine et les a arrosées avec de la défiance et des soupçons jusqu'à ce que nous récoltions maintenant une moisson d'horreur. Si vous entendez une voix qui vous éloigne des chemins de la vertu, qui vous dit que vous êtes trop occupé pour lire la Bible, qui raccourcit vos prières, vous pouvez être absolument certain que sa source est bien Satan, peu importe de qui la voix provient. Toute voix qui tente de vous convaincre que vous n'avez pas suffisamment de temps pour atteindre la maison de Dieu ou pour être en harmonie avec les saints, qui vous dit que vous n'avez pas à donner à Dieu les choses qu'il est en droit pourtant d'attendre, ne peut être que la voix de Satan. Si vous écoutez une telle voix, elle détruira votre témoignage et elle vous volera la bénédiction de Dieu. Les quatre moyens par lesquels Dieu s'adresse habituellement à son peuple sont: par l'intermédiaire de ses anges, par l'intermédiaire de ses prophètes, par son Verbe et par son Esprit Saint. Avant que le Saint-Esprit ne vienne en personne le jour de la Pentecôte, afin de remplir la promesse de Christ, les anges étaient les intermédiaires entre Dieu et l'homme. Ces anges n'étaient pas des êtres omniprésents. Dieu complétait ce moyen par une autre possibilité de communication pour le Nouveau Testament de l'Église en envoyant le Saint-Esprit, qui est lui omniprésent. Et par le Saint-Esprit, il peut être avec et dans chacun de nous, en toi comme en moi, en même temps. Et c'est vrai. Et c'est par le déversement du Saint-Esprit que nous recevons la puissance dynamique pour être témoins pour Christ. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous donne l'assurance inébranlable de notre position en tant qu'enfant de Dieu, comme il est écrit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel a crié « Père ». Père, Galates chapitre 4, verset 6. Saint Jean, le bien-aimé, a décrit la magnifique pierre angulaire, fondation de notre foi, en ces mots. Écoutez bien. Il a dit, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, tout simplement parce qu'il nous a donné de son Esprit Saint. Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 13. Chers amis, quand j'entends des soi-disant chrétiens dire qu'ils sont faibles, presque vaincus ou confus, je sais qu'ils n'écoutent pas la voix de l'Esprit Saint. Ils disent « Je suis abattu, je ne sais pas où j'en suis ». Tout chrétien, chers amis, qui suit la voix du Saint-Esprit obtiendra une réponse dans les moments difficiles et aura la puissance pour le proclamer, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Saint Luc chapitre 12, verset 12. Le chrétien qui écoute la voix de l'Esprit ne pourra être endoctriné de quelque façon que ce soit, ni par les scientologues, ni par les soi-disant saints mormons, ou par tous les gourous du monde. Il ne sera pas déçu par de faux prophètes ou de faux enseignements. Le véritable chrétien qui a son cœur et ses oreilles accordées à la voix de l'Esprit aura les mots de Christ pour lui rappeler le bon chemin. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon Saint-Nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Notez Saint Jean, chapitre 14, verset 26. Il nous est dit dans les Écritures saintes que le Saint-Esprit nous guidera dans toute la vérité. Saint Jean, chapitre 16, verset 13. Le Verbe donne également une illustration de la manière dont le Saint-Esprit guide les mouvements du croyant. Il parlait à l'apôtre Pierre de la venue de trois hommes et lui recommandait d'aller avec eux, car ainsi était le désir de Dieu. Car des hommes comme Pierre, Paul, Jacques, Jean et les autres pionniers, pionniers de l'Église passée, reconnaissaient et prêtaient attention et comment à la voix de l'Esprit Saint, et ils étaient capables de vaincre des obstacles énormes et terrifiants. Leur obéissance à la direction du Saint-Esprit les rendait aptes à placer une solide fondation de vérité et de foi qui a servi à l'Église et qui la perpétue jusqu'à ce jour. L'Église actuellement, elle a des millions de membres de par le monde, mais il est triste à dire qu'ils ne sont pas tous conduit par l'Esprit Saint. Manquant de profondeur spirituelle, ils sont menés par quiconque arrivant avec une doctrine ou une théorie suffisante pour enthousiasmer leur curiosité. Je répète, pour ne pas que ce soit mal compris, l'Église actuelle, elle a des millions de membres, et c'est vrai, de par le monde entier. Mais il est quand même assez triste quand il faut dire qu'ils ne sont pas tous conduits par l'Esprit-Saint. Il manque donc de ce fait de profondeur spirituelle, évidemment. Ils sont menés par quiconque va arriver avec une doctrine ou une théorie suffisante pour enthousiasmer leur curiosité, que ce soit Rudolf Steiner ou d'autres, ou pour en quelque sorte meubler leur imagination. Donc, il doit être rappelé qu'ils n'entendront pas tous, ils n'entendront pas, et de ce fait, ils n'entreront pas. Ils ne pourront jamais entrer dans le royaume des cieux, tous ceux qui disent simplement « Seigneur, Seigneur », ce n'est pas le tout de dire « Seigneur, Seigneur », mais ce sont ceux, seuls ceux, qui font la volonté du Père. Ce n'est donc pas automatique. Saint Matthieu chapitre 7, verset 21. Donc, chers amis, le fait d'appartenir à une église, c'est déjà pas mal, mais cela ne fait pas nécessairement d'une personne un fils ou une fille de Dieu. Ce n'est pas automatique. La signification de la filiation est à double tranchant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint de Dieu sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Donc, chers amis, nous ferions bien de regarder la grande armée. Cette grande armée illustrée par le prophète Joël. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Joël, chapitre 2, versets 7 et 8. Donc, il ne s'agit pas d'hommes et de femmes confus qui se disputent et se battent entre eux. Non, 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 ce ne sont que des hommes qui ont vraiment entendu la voix de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui vraiment désirent d'entendre la voix de Dieu et qui ont reçu leur direction divine et qui marchent vers une victoire certaine et totale. Oui, Dieu parle toujours aux hommes actuels, mais de nombreuses personnes manquent de communication réelle avec le Seigneur et ils disent « il ne s'agit que du tonnerre ». Or, Dieu prononce des mots d'amour, oui, des mots de miséricorde, des mots de sagesse, mais tout ce qu'ils entendent, ces gens-là, ces soi-disant pseudo-chrétiens, ils disent « ça peut être que le tonnerre ». Et en cette heure terrible, alors que le jugement est en train de tomber sur la terre, vous verrez, des tremblements de terre toujours davantage. C'est pas le tout de dire simplement ce sont des plaques qui se rencontrent. Tout cela est provoqué par la main de Dieu et il y en aura d'autres de ces calamités et ils diront que c'est seulement parce que. Non, 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 nous devons entendre Dieu. Il nous faut reconnaître sa voix quand il parle. Si je n'avais pas reconnu et prêté attention à la voix du Seigneur dans les moments difficiles de mon existence, je n'aurais pas pu le suivre. Il m'a montré le chemin à suivre et il m'a conseillé tout au long de celui-ci. Il a révélé sa vérité à mon âme et à mon esprit. Il m'a communiqué sa sagesse et il m'a montré ce qu'il fallait faire. Il m'a donné les mots à prononcer quand je ne pouvais trouver les miens. Et encore aujourd'hui, sa voix m'a donné la force alors que j'étais épuisé. Il a été mon compagnon constant et mon conseiller. Sa voix bénie m'a enflammé d'une telle passion que toutes les oppositions de l'enfer ne pourraient l'éteindre. Oui, nous allons terminer cette première partie. Et je dirais, cher ami, sache que Dieu parle. Il parle encore aux hommes, aux femmes, et il vous parle aujourd'hui encore. Il vous appelle et il vous demande de vous élever. Il vous demande de sortir de votre lit d'affliction. Il vous dit que vous le pouvez et que vous serez délivré si seulement vous prêtez attention à sa voix. Ma très chère sœur, mon très cher frère, la voix de Satan, elle vous dira à travers des milliers de lèvres incroyantes que la guérison n'est pas pour aujourd'hui ou que vous ne la méritez pas. Mais la voix de Dieu, elle dit, « Je suis le Seigneur qui te guérit ». La voix de Dieu appelle les pécheurs au repentir et avec amour, elle offre le salut à qui le veut. Le libre choix. Tu peux refuser, mais tu peux aussi accepter. La voix de Dieu, elle promet la puissance aux croyants. La voix de Dieu montre le chemin rapide vers la sainteté, mais il faut encore le désirer, le vouloir, et surtout faire l'effort voulu. C'est pas automatique, il faut de la discipline. La voix de Dieu, elle parle d'amour. Et non pas de haine, elle parle de réconciliation et non de rejet. La voix de Dieu parle de vérité qui délivre et non pas de mensonge qui garde l'homme en captivité. Oui, mon ami, deux voies existent. Il n'y a que deux voies, il n'y a que deux chemins. L'une est la voie de Dieu, qui élève toujours les hommes, les femmes, et l'autre, c'est la voix de l'ennemi, de Satan, qui entraîne les hommes toujours plus bas. Les deux voix implorent votre âme, l'une pour la sauver, et l'autre pour la perdre, pour la damner. À quelle voix prêtez-vous attention? Il existe aussi deux attitudes. Dites-vous ceci. Je veux prêter attention à la voix de Dieu. Ou bien, ce n'est, hélas, me semble-t-il, que le tonnerre. Mon cher ami, ma chère amie, personne ne te force. Tu es 100% libre de choisir. Prions maintenant ensemble. Prions. Seigneur notre Dieu, roi de gloire et Père des miséricordes, toi en qui, par qui et pour qui sont toutes choses, nous te rendons grâce au seuil de ce nouvel an du salut, car le salut, c'est toujours un jour nouveau, de ce que tu reviens à travers ton divin message et du divin messager pour nous appeler, pour nous chercher, pour nous sauver et pour proclamer aux pauvres la bonne nouvelle, délivre, oui, délivre encore les prisonniers. Rends encore la vue aux aveugles, car ton Église recommence aujourd'hui le lent pèlerinage qui, de jour en jour, de dimanche en dimanche, de fête en fête, va lui faire revivre la tragique et merveilleuse épopée de ton action ici-bas. Ouvre donc nos oreilles, ô Seigneur, pour qu'elles sachent entendre. Ouvre nos yeux pour qu'ils sachent voir. Ouvre nos cœurs pour qu'ils sachent recevoir, pour comprendre, pour accepter et pour obéir. Et cela, nous le disons au saint nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen. Amen.